Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je reçois aujourd'hui Antoine Mouton pour son ouvrage HKZ, publié aux éditions Ypsilon. Antoine Mouton, bonjour.
Bonjour Paul de Brancion.
Alors, c'est un bel ouvrage déjà physiquement, c'est un beau livre bleu, presque Klein, enfin Yves Klein, le peintre qui faisait beaucoup de bleu, et qui parle de quelque chose sur lequel on va s'étendre beaucoup. Mais avant, j'aimerais vous présenter un tout petit peu, Antoine. Vous êtes né d'un père forgeron et d'une mère institutrice. Vous êtes l'auteur d'une œuvre qui évolue entre la poésie, le roman, les contes et les récits en prose. Alors, je ne sais pas si un récit en prose est un roman. Je ne sais pas si un roman est un récit en prose. Mais enfin, il y a quelque chose comme ça. Et votre premier roman... Le metteur en scène polonais est paru chez Bourgois en 2015.
Oui.
Puis vous avez publié encore chez Bourgois en 2022 Toto perpendiculaire au monde, qui est un titre énigmatique. Et aujourd'hui, nous allons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler de HKZ, publié aux éditions Ypsilon. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est pour commencer, avant, on peut développer, de toute façon, parler de présenter les gens par leur vie et leur œuvre, ça ne sert à rien si on ne parle pas de l'œuvre. Et là, on va parler de l'œuvre, justement. Et j'aimerais vous entendre lire un texte de HKZ, par exemple.
Ben oui, volontiers. Je vais vous lire. HKZ, c'est l'histoire des derniers mois de la vie d'une personne qui s'appelle Hermine Karagöz et que je nomme dans le livre HKZ. Et ici, dans un passage, je raconte où j'écris la rencontre avec HKZ. Et c'est ça que je vais vous lire. C'était il y a plus de 10 ans, dans un monastère de la vallée de la Roya où j'étais en résidence d'écriture. HKZ devait lire les élégies de Duino de Rilke à l'occasion du printemps des poètes. Elle était arrivée en avance pour 2 raisons. La première concernait son immeuble, qui venait d'être classé en péril. Elle ne se sentait pas rassurée à l'idée d'y retourner. La deuxième était le poème de Rilke. Elle avait décidé, non pas de le lire, mais de le dire, bien que plusieurs années soient passées depuis la tournée. Et donc, pour cela, elle devait réapprendre le texte. Mais tout de même, il lui fallait un souffleur au cas où elle oublierait un mot. Je m'étais proposé. Nous nous retrouvions tous les après-midi dans le réfectoire. Elle disait les élégies, je lui soufflais les mots qui lui manquaient. À l'époque, il lui en manquait peu, mais il était déjà question d'oubli. Souffler, mais parler surtout, de la vie longuement, après la traversée des élégies, jusque tard dans la nuit. De larges après-midi, de fulgurantes soirées à tenter de tracer des lignes avec la parole dans l'existence. Et puis parfois voir l'aube poindre, le bleu submerger les branches graciles du cerisier précoce par la fenêtre ovale, mais continuer de parler quand même, sans s'affoler. Quelques jours, ainsi, dans la parole et la vie, comme rarement se dire, se confier comme on s'offrirait, garde-moi quelque part en toi. Puis, le jour du printemps, les élégies, le public, les trous de mémoire, ma voix de secours. Tout s'est très bien passé, HKZ a bien dit, j'ai bien soufflé. Nous nous étions bien entendus. Quand elle est repartie, j'étais sûr que je la reverrais. À sa orge, HKZ m'avait dit ne pas tolérer qu'on parle de quelqu'un comme d'un personnage. C'est un sacré personnage, celui-là. Personne n'est un personnage, rectifiait-elle. Et pourtant, les années qui suivirent ressemblèrent à un legs. À chaque fois que nous nous voyions, elle me livrait un nouveau pan de son existence dont je devins, au fur et à mesure, l'un des dépositaires privilégiés. Bien sûr, il y avait de grands noms, Patrice Chéreau, Jacques Rivette, Samuel Beckett, Roger Blin, Laurent Terzieff, Jean Babilet, Artavaste Pélechian... Mais on ne s'y arrêtait pas plus que sur les autres, on ne les idolâtrait pas en tremblant d'admiration pieuse, on les évoquait seulement pour dire ce qu'ils avaient à voir avec elle, ce qu'ils lui avaient appris ou ce qu'elle avait fini par leur faire comprendre, au même titre que les clochards qui peuplaient le square en face de chez elle, ou la gardienne de son immeuble, Anna Rocha, et sa fille, Annabelle, ou l'enfant dans la rue, le chat, l'oiseau, le moucheron, son petit frère qui lisait Science et Vie dans le bois de Meudon, tout ce qui vit l'intéressait. Quelquefois, pour me souvenir, j'essayais de prendre des notes après nos rendez-vous. Bien vite, je renonçais. Il y avait trop de strates, et puis cet interdit aussi, qu'elle avait immédiatement posé sur ma rapacité éventuelle. À présent que ses souvenirs, ses noms et ses lieux disparaissent de sa mémoire, je m'autorise à les écrire. Le temps de l'écriture n'est pas le passé, ni le présent pur comme cette chronique pourrait le laisser à croire, ni l'anticipation mortifère comme je le crains parfois. Non, le temps de l'écriture, c'est le trop tard.
Alors, c'est toujours difficile de lire un roman, parce que on en a trop ou trop peu, tout à la fois. Et à la fois, ce que je veux dire, c'est que ce texte n'est pas tout à fait un roman. C'est à la fois une sorte de journal pré-posthume, qui porte la voix d'une autre, entre autres, HKZ. Et moi, la question que je vais vous poser, vous l'avez un petit peu évoquée dans votre lecture, c'est qui était HKZ ? Qu'est-ce qu'elle faisait, en fait, avant d'être votre HKZ telle qu'elle est, elle apparaît dans l'ouvrage, dans le livre. Qui était, enfin, c'était une comédienne, qu'est-ce qu'elle faisait ? Racontez un peu, voilà.
Oui, elle a été comédienne, elle a eu une vie assez multiple. Enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment lié à elle, en fait, en amitié, parce que je voyais qu'on pouvait, quand je l'ai rencontrée, j'ai compris qu'on pouvait vivre de beaucoup de manières différentes. On pouvait vivre plusieurs choses en une vie. Enfin, en fait, une vie, c'est au singulier, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça devrait être au pluriel. Et puis, dans son cas particulièrement, parce que donc, oui, elle a été comédienne pour le théâtre, pour le cinéma. Elle a été aussi journaliste pour l'autre journal, au moment notamment de... Enfin, elle a fait des reportages dans le Jardin des Plantes, mais aussi en Arménie.
L'autre journal, c'était un journal très original qui était créé par Michel Butel en son temps, qui était une belle chose, mais très protéiforme. Enfin, il y avait plein de choses très différentes, très, très riches, quoi.
Oui, oui, totalement. Et puis, elle a été photographe, elle a exposé à la Galerie du Jour d'Agnès B. Elle a fait énormément de choses, et puis elle a aimé des gens, connu des gens, enfin, c'est-à-dire que c'était ça aussi, c'est-à-dire que tout était sur le même plan quasiment, enfin, c'est-à-dire que les moments où elle n'avait rien fait étaient des moments dont elle parlait quand même, c'est-à-dire qu'elle pouvait quand même raconter quelque chose, même si elle n'avait pas eu nécessairement de vie, disons, professionnelle ou sociale ou quoi que ce soit, enfin, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui mettait sur le même, au même endroit les journées.
C'est joli d'ailleurs ce que vous dites. Elle parlait avec autant d'attention et de précision aussi de quelqu'un qui n'avait qu'une fonction de vivre simple et des personnages connus ou un peu connus dans le théâtre, etc. Et ça, c'est bien agréable, ce sentiment que d'un être humain, ça suffit pour être intéressant.
Oui, 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 oui. Mais c'est même presque un pari, j'ai l'impression, qu'elle faisait, que sans doute l'être humain, même... sans rien, disons, pouvait quand même être intéressant.
Oui, parce que dans le livre, assez souvent, même quelquefois, certaines activités qui pourraient lui être favorables professionnellement, parce que finalement, ça ne lui convient pas, elle a envie de vivre simplement.
Oui, oui, bah notamment, il y a eu elle a été à la création de la dispute de Marivaux par Patrice Chéreau au TNP, puis qui lui a proposé de continuer l'année suivante, puisque le spectacle avait eu vraiment un retentissement fort, et donc on proposait une tournée, et puis elle avait dit que ça l'intéressait un peu, mais seulement si elle échangeait de rôle avec sa partenaire de l'époque, et pas spécialement parce que le rôle était meilleur, simplement pour varier quelque chose, pour varier le plaisir. Et Chéreau avait dit non, et elle avait dit « bah tant pis, je pars en Inde avec mon amoureux ». C'était pas très grave, enfin, elle avait jamais considéré ça comme quelque chose de grave.
Chéreau, ça l'avait un peu embêté quand même.
Oui, apparemment, oui, oui. Mais c'est ce que j'ai appris, mais pas par elle. Enfin, je l'ai appris par ses amis, en fait, qui disaient que oui, il avait été fâché. Mais elle ne parlait jamais de la fâcherie. Il y avait quelque chose qui était. Elle était bien. Enfin, elle était absolument dans son désir en ne continuant pas la dispute.
Mais il faut se mettre à la place de Patrice Chéreau. Il a fallu qu'il trouve quelqu'un d'autre.
Bah oui, oui.
C'était du boulot en plus, compliqué, trouver la bonne personne. Et puis en plus, c'était une actrice intéressante, donc elle pouvait lui manquer, en quelque sorte. Vous voyez, donc ça aussi,
oui, oui.
Hein, c'était une drôle d'histoire. Donc c'était un électron libre, en quelque sorte, HKZ.
Oui. Par exemple, sur le jeu, être comédienne, ça c'était pas exactement ce qu'on pouvait appeler une vocation. C'était pas son désir, c'était pas son seul désir. C'est-à-dire que elle avait d'abord tenté. Enfin, elle a été comédienne à partir de 30 ans à peu près. Avant, elle avait tenté une vie, disons, de vagabonde. Elle écrivait des poèmes, elle vendait ses poèmes dans les cafés. Elle vivait avec un homme qui s'appelait Neptune dans une maison de garde-chasse dans une forêt au large de Paris. Enfin, au large de Paris.
Ouais. Si Paris était une mer.
Oui, à peu près. et puis, oui, elle n'avait pas désiré spécialement jouer. Puis soudain, elle a rencontré Roger Blin. Elle a vu que Roger Blin s'intéressait à elle et elle s'est dit, oui, pourquoi pas cette vie, mais ça aurait pu très bien être une autre.
Oui, et c'est Roger Blin qui l'a amené au théâtre, en quelque sorte.
Oui, totalement, oui.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Et bien sûr, Chute libre, je suis aujourd'hui avec Antoine Mouton pour son très bel ouvrage HKZ, publié aux éditions Ypsilon. Quand Lulu et Claude Pellieu les rejoignirent en stop depuis Paris, ils passaient la journée à marcher, Lulu et Neptune devant d'un bon pas énergique, extravagant. HKZ et Claude derrière à la traîne, mélancolique, mâchonnant des brins d'herbe, s'arrêtant au moindre prétexte, Lulu dit, les deux ogres et les deux poètes. Alors là, c'était l'époque où HKZ était dans sa campagne, enfin dans la forêt, aux abords de Paris, avec Neptune, qui était un clochard céleste, semble-t-il, quelque chose comme ça. Enfin,
voilà. Oui, un alchimiste et puis quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux plantes et puis à la poésie aussi, à Nerval énormément, je crois.
Ah oui. Mais donc, quand on s'intéresse à Nerval, il faut aller dans les forêts aux abords de Paris.
Oui, je crois, oui.
Quasiment obligé.
Oui.
Et Nerval a écrit de si beaux textes justement sur ces forêts-là. Il y a aussi une autre petite citation, « Tout amour est la perfection ou la dégradation d'un autre plus ancien, maudit, perdu, écrivez-vous. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça ?
Il y a quelque chose chez HKZ, enfin, que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que vraiment quelque chose de l'amour pour elle, durer. Enfin, c'est-à-dire que ce premier amour avec Neptune avait été extrêmement fort et avait laissé la place à d'autres amours, avait ouvert quelque chose justement d'une sorte de capacité à aimer. Et puis elle avait aimé Roger, ensuite Blin, et puis enfin Jean Babilet ensuite. Enfin bon, pas mal de monde en fait, et qu'elle cherchait sans doute à réparer cette première perte, mais pas seulement, mais prolonger aussi ce premier événement dans sa vie, parce que ça avait été vraiment un événement, ça avait été quelque chose de mystérieux, et la perte de cet amour avait été très troublante pour elle, parce que ça s'était passé très mystérieusement, elle ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé exactement.
La perte de Neptune, en l'occurrence.
Oui, 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 oui. Il avait été soudain en hôpital psychiatrique, elle l'avait retrouvé dans un trou, enfin, dans la forêt, et puis... Elle racontait ça comme quelque chose d'une peur, oui, qui était venue par-dessus l'amour, quoi.
Et vous écrivez, HKZ est celle qui, dans ma vie, a ouvert la possibilité d'un futur, quand je me démenais encore avec le passé et multipliais le présent pour ne jamais y être. Le passé s'est détaché, le présent s'est unifié, le futur peut advenir, même la mort d'HKZ peut advenir. C'est beau d'écrire ça, mais c'est quasiment tout un programme, en quelque sorte, de vie, de mort et de survie.
Ben, il y a vraiment... Enfin, c'est-à-dire que pour moi, Hermine, donc HKZ, a ouvert quelque chose de... aussi de l'espace, c'est-à-dire du temps et de l'espace à travers Paris, parce que moi, Paris, bon, j'avais grandi à la campagne, enfin, dans plusieurs campagnes, mais... Et donc je connaissais que par les livres, les films, et en arrivant à Paris en l'an 2000, je retrouvais pas tout ce que j'avais lu et vu. Il y avait comme une clé qui me manquait, et Hermine, elle a été cette clé-là, parce qu'elle me montrait justement, elle témoignait quand même d'un temps, elle témoignait d'un passé, mais elle témoignait aussi des subsistances du passé dans le présent, de ce qu'il en restait, de certaines circulations qu'elle rendait possibles dans cette ville. Et puis le fait on n'avait pas tout à fait le même âge, elle est née en 1938, moi je suis née en 1981, et soudain je rencontrais quelqu'un qui avait vécu vraiment beaucoup plus que moi, et qui avait vécu quelque chose, enfin qui avait vécu une vie que je pouvais trouver, disons moi de mon côté, intéressante à chaque fois, ou presque. Enfin, il y avait peut-être des moments de sa vie que j'aimais moins que d'autres, mais je faisais mon choix à l'intérieur. Et ça m'intéressait, oui, de voir que c'était possible, en fait, de vivre autant de temps avec toujours ce même goût, disons.
Mais alors, moi j'entends très bien ça, mais à la fois ce qu'il y a dans votre livre d'extraordinaire, c'est que tout à la fois ça s'appuie sur une grande force de vie et de réalité de vie de HKZ, mais qu'elle vous transmet en partie aussi, qu'elle vous fait vivre, qu'elle pouvait, et dont elle vous transmet des éléments tout au moins, et de l'autre côté, comme un apprentissage concret et réel du mourir, pas de la mort, du mourir, d'être en train de mourir et de vivre ça comme une vie.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se cachait, peut-être parce que Hermine était peu... entourée par sa famille, enfin, donc il y a quelque chose, enfin, c'est-à-dire souvent les gens quand ils meurent sont enfin, au moment de mourir sont comme cachés ou protégés, enfin, par leur famille. Et là, j'y assistais en tant qu'ami, en fait, à ce moment-là, ça m'était pas dissimulé, et je trouvais ça très beau. Mais elle-même avait assisté à ça, c'est-à-dire que pour Roger Blin, elle a écrit elle-même un livre sur les derniers jours de Roger Blin, qui s'appelle Roger Blin, une dette d'amour. Et en fait, c'était ça qui me marquait, parce qu'elle racontait souvent cette histoire de la mort de Roger, et elle avait trouvé ça intéressant. Et je trouvais ça très, très, moi, troublant, en fait, qu'on puisse trouver ça intéressant, quelqu'un qui meurt, parce qu'elle avait trouvé qu'il était bien mort.
au sens où il était mourant bien. Enfin,
oui, voilà.
Il était bien mort.
Oui, oui. Et, Et pour Hermine, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Je me suis dit oui. Enfin, j'étais presque sûr, en fait, en voyant, quand j'ai compris, en fait, qu'elle était en train de mourir, qu'elle était dans ce moment-là de sa vie, que oui, ça allait être intéressant. J'en ai été curieux très souvent, pas tout le temps. Il y a des moments où j'en étais, où disons, j'avais le chagrin de sa mort, où le chagrin était trop fort, et puis donc j'avais moins d'intérêt. Mais il y en avait d'autres où, au contraire, je me disais, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer? C'était presque quelque chose. C'était un enseignement, vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça très, très. Je voulais être au plus proche de ça, en fait. Au plus proche de... Qu'est-ce qu'elle va lâcher à ce moment-là? Parce qu'il s'agissait vraiment de ça, de lâcher petit à petit, de desserrer les mains. Enfin, il y avait vraiment cette image-là qui était très forte. Et elle les a desserrées peu à peu. Et moi, j'étais là, témoin de cette chose-là. Et je crois que oui, j'ai appris. Même, il y a quelque chose de la peur de la mort qui s'est. Je dirais pas tout à fait dissous, mais quand même, en tout cas, apaisé. Enfin...
Parce que, en fait, vous, c'est un peu transgressif. Parce que, si je me souviens bien, les philosophes grecs, en l'occurrence les sceptiques, je crois, disaient, moi ça m'avait beaucoup frappé, vis quand tu vis, tu t'occuperas de la mort quand tu seras mort. Là, vous ne faites pas ça. Vous vivez en apercevant, en regardant, en analysant, en écoutant, en ressentant. La mort présente déjà dans ses annoncés, voilà. Et donc c'est transgressif, c'est quelque chose qu'on fait pas, quoi.
Oui, c'est ça, parce que c'est, on a fait en sorte que ça devienne pas un accident, en fait. Enfin, c'est-à-dire que je dis on parce que c'était ses amis, enfin, qui se sont mobilisés autour d'elle quand on a compris que quelque chose était de cet ordre. C'est-à-dire que on a fait en sorte que ce soit pas ni un accident ni un drame, mais réellement un moment de la vie, un moment de sa vie, en fait.
Vous écrivez « Sommes-nous l'enfant de notre âme? Est-elle notre modèle? Doit-on accomplir son programme? Devenir ce qu'elle est, ce que nous sommes, sous peine de quoi ?»
Alors ça, c'est Hermine qui a écrit ça, en fait. C'est un texte d'elle que j'ai retrouvé dans son ordinateur quand je commençais à vider son appartement. Et puis, il y avait un fichier qui s'appelait « Les dernières années » et qui est une méditation, justement, sur l'âme, une manière de tourner le mot âme dans plein de sens pour tenter de lui trouver justement le sens qui lui conviendrait le mieux à elle. Et donc je ne peux pas vraiment répondre à sa place, mais je voulais par contre que ce texte figure au milieu du mien, parce que c'était une façon, oui, enfin, de l'accueillir, quoi, de faire un livre à deux, mais de façon posthume.
Mais vous l'avez fait, ça, c'est-à-dire que vous l'avez vraiment accompagné, enfin, vous racontez, parce qu'à un moment elle perd un peu la tête, ou en tout cas elle perd la mémoire, elle oublie.
Oui.
Elle oublie, mais elle oublie pas tout. Elle oublie.
Non, elle oublie certaines choses. Elle oublie. Elle oublie à un moment mon prénom puisqu'elle m'appelle Marcel. Et puis, mais à la fois, c'est-à-dire que par rapport à cet oubli, c'est-à-dire moi, il y avait cette question-là de. C'est toujours la question. Puis en plus, il y avait le Covid, donc qui créait des vrais moments où on la voyait pas, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, et la question, c'est est-ce qu'on va la retrouver? C'était ça souvent entre nous, ses amis. Et moi, à chaque fois, je la retrouvais, même si elle avait pas toute sa mémoire, même s'il lui manquait plein d'informations, même si elle m'appelait Marcel. En fait, je retrouvais toujours quelque chose d'elle, et c'était ça que je trouvais très étonnant. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ça l'interrogation commune, en tout cas c'est pour ça aussi que j'ai placé cette interrogation qu'elle a dans le livre, enfin, sur l'âme, parce que je me suis dit, oui, alors qu'est-ce que c'est que cette chose que je retrouve si même elle ne sait plus vraiment où elle est, ni qui je suis. Je me suis dit, peut-être que c'est ça, alors, ce mot-là, âme, enfin, que c'est cette chose que je retrouve à chaque fois quand je vais la voir et qui n'est pas tout à fait le souvenir.
Donc ça n'est pas... j'allais dire, l'âme, c'est ce qui reste quand tout est oublié. Voilà, non, je sais pas.
C'est ce qui reste ou c'est ce qui revient? C'est ce qui revient. C'est vraiment cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai appelé HKZ le livre du revenir. Parce que c'est vraiment. C'est non seulement ce qui me revient au sens de presque ce qui m'échoit, mais aussi ce qui revient d'elle sans cesse. C'est-à-dire ce qui n'arrête pas de venir, de me venir.
Mais ce qui revenait aussi beaucoup, c'est son humour aussi. Elle était drôle. Oui. Par moments, je ne me souviens plus, je n'ai plus le passage dans la tête, mais il y a des gens qui la traitent un peu comme une amnésique, ou une folle, mais vraiment quasiment. Mmh. Et elle leur sort quelques réparties extrêmement justes, quoi.
Oui.
Paf.
Oui, oui.
Et puis après, elle retombe dans son oubli.
Oui. Voilà.
C'est magnifique, ça, cette espèce de capitalisme. Et ça, c'était son revenir à elle.
C'était vraiment son revenir, ça, oui. Oui, oui. Un humour, une façon d'aller toujours chercher la situation pour l'amener ailleurs. Ça, elle avait vraiment cette capacité, que, évidemment beaucoup plus vive quand je l'ai rencontrée. Enfin, beaucoup plus présente, beaucoup plus, oui. Mais malgré tout, toujours là, même à l'EHPAD. Enfin,
capacité théâtrale, d'ailleurs. Hein,
totalement.
Quasiment.
La réplique.
Nous sommes avec Antoine Mouton sur Chute Libre pour HKZ, son ouvrage Le Livre du Revenir aux éditions Ypsilon. Alors, cette musique, c'était quoi, Antoine ?
Alors, c'était un groupe chinois qui s'appelle Walloon. Et c'est une musique qui était présente dans le film An Elephant Sitting Still de Ubo. C'est un des derniers films qu'on a vu ensemble avec Hermine, parce avec HKZ, donc, parce qu'on allait souvent au cinéma ensemble. Je sais qu'elle aimait beaucoup cette musique, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Puis il y avait cette histoire d'éléphant, c'était quelque chose de très intéressant, parce que c'était 4 heures de gens qui essayent d'aller voir l'éléphant, et à la fin on ne le voit pas, on l'entend seulement barrir. Et il y a quelque chose qui a aussi à voir là avec avec une appréhension, avec la mort, en fait, peut-être. Enfin, avec quelque chose que finalement on ne voit pas, qui se dérobe au dernier moment.
Ashkazen m'appelle encore Marcel. Ah, Marcel, s'écrie-t-elle en me voyant. C'est la deuxième fois, je lui dis, mais je suis Antoine. Mais je regrette parce qu'elle ne réagit pas, comme si mon prénom ne lui évoquait rien du tout. Peut-être ai-je disparu de sa mémoire, ou bien mon prénom s'est envolé, aussitôt remplacé par un autre, ne recouvrant rien de précis. Comment savoir ? Hermine est Ashkazed et moi, Marcel. Ce que l'autre fait de nous, nous ne le savons jamais vraiment. Elle est cruelle, mon amie. Son indifférence est parfois patente. Elle dit d'elle-même « Je suis terrible ». Elle ajoute « J'ai toujours été terrible, mais en plus, maintenant, je suis moche.
» Oui.
Est-ce qu'elle était moche ?
Ah non, pas du tout, non, non. Mais il y avait quelque chose, oui, de la vieillesse qu'elle avait du mal à admettre même. Enfin, c'est-à-dire que c'était quelqu'un, justement, qui, jusque très tard, avait tenté de tenir une certaine... apparence, et puis bon, enfin, les derniers mois ont été un peu plus compliqués, quoique, enfin, à l'EHPAD on s'occupait très bien d'elle, mais disons qu'on l'a coiffée comme comme tous les gens de l'EHPAD, et elle n'avait pas du tout l'habitude d'être coiffée comme ça, elle.
Alors, une fois, justement, au théâtre de la Vieille Grille, devenu l'Ours et la Vieille Grille, elle a essayé de se suicider sur la scène, hein. C'est incroyable, cette histoire. En plus, au théâtre, toujours avec Guédalia, Ashkazed avait ramassé un morceau de verre et s'était tranché les veines sur scène. Lulu avait appelé les secours. C'est incroyable de faire ça. Quelle théâtralité absolue.
C'est ce qu'on m'a raconté. Moi, j'étais pas présent à ce moment-là, mais ça fait partie de tous les récits que j'ai recueillis ensuite, parce que évidemment, il y en avait plein dont Hermine ne parlait pas. Mmh. C'est pas qu'elle parlait pas d'avoir eu envie de mourir dans sa vie, parce que ça, elle a pu me parler de l'envie de mourir. D'ailleurs, enfin, elle avait pris un chat qui, enfin, je pense que c'était après ça. Maintenant, je relis les dates, mais elle avait pris un chat et puis elle l'avait appelé Toubi, parce qu'elle avait choisi entre Toubi et Not Toubi.
Oui.
mais oui, il y avait eu ce moment, mais c'était tout un tas d'expérimentations, notamment avec donc ce musicien Guédalia Tazartès. Qui était, je sais qu'ils avaient joué ensemble à la Borde, enfin qu'ils étaient nus au milieu
non,
de
la Borde, c'était un asile psychiatrique particulier.
Oui, hein, oui, oui, oui.
Très original, en quelque sorte, où les gens ont beaucoup de liberté, capacité de création, et qui se trouvent à la campagne, quelque part, au milieu d'une forêt, je crois que c'est en Sologne, plus ou moins, je ne sais plus.
Je ne sais pas exactement où c'est, mais oui.
Je sais plus.
Oui.
Mais c'est vrai. Donc elle participait aussi à des expériences... particulière, enfin, de l'ordre de l'esprit, mais où on se met en jeu.
Oui, ah oui, totalement, oui, c'était... Tout était lié à la vie, c'est ça qui était très beau, c'est-à-dire que c'était jamais... Quand elle parlait de ce qu'elle avait fait, c'était vraiment pas... J'avais jamais l'impression d'être face à un CV. Enfin, c'est-à-dire que c'était toujours quelque chose qui était vivant ou habité par... Enfin, qu'elle avait habité ou tenté d'habiter, quoi, à sa façon très particulière, en fait. Enfin...
Et alors, Roger Blin, ils ont vécu ensemble longtemps, Ashkazed et lui ?
Oui, ils ont vécu ensemble un certain temps. Je n'ai jamais su exactement combien de temps, mais ils sont restés en relation très longtemps, enfin, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Roger Blin. Elle était très, très proche de lui. Ils ont partagé un appartement ensemble. Et puis, elle voulait vraiment... raconter cette mort qu'elle avait trouvée vraiment extraordinaire.
Oui. Et d'ailleurs, elle s'est chargée d'organiser les obsèques, si j'ai bien compris.
Oui, avec Michel Meunier, je pense.
Oui. Quand Roger Blin est mort, je vous lis, hein, tout simplement. Oui. Ashkazed n'a pas voulu que les gens prennent la parole lors de la cérémonie au Père Lachaise, ni qu'il y ait la moindre musique. Elle a imposé 3/4 d'heure de silence face à un escalier, au crématorium, sans trop se rendre compte de la radicalité de son choix, ni de sa violence, sans y prêter la moindre attention. Roger, juste avant de mourir, avait soudain cessé de bégayer. Il avait retrouvé la parole, écrit Ashkazed dans son livre. Alors, il n'y avait plus qu'à se taire. Mais c'est violent, effectivement, de se taire pendant 3/4 d'heure.
Oui.
De rester en silence.
Oui, mais c'était vraiment ça qui l'intéressait à ce moment-là. C'était une, disons, une radicalité très nette, enfin, puis qui, et puis qui allait avec, avec ce qu'elle vivait à ce moment-là. Enfin, puis ça l'a portée très très loin, en fait, cette mort, puisque c'est à ce moment-là qu'elle plonge dans Rilke, dans les élégies de Duino, justement. Enfin,
c'est là que vous la rencontrez, d'ailleurs.
Non, je la rencontre vraiment plus tard.
Plus tard, d'accord.
Oui. Mais disons que je la rencontre au moment où elle reprend les élégies de Duino. Mmh. Mais tout de suite après la mort de Roger, il y avait eu... Elle s'était lancée vraiment dans les élégies, dans le fait de dire de la poésie, d'arrêter plus ou moins le théâtre, disons, au sens le plus courant du terme, pour venir... elle avait fait toute une tournée dans le Cotentin, je crois, avec les élégies de Duino. Et qu'elle lisait, elle avait lu aussi, je crois, au Théâtre de la Bastille. Mais c'était cette idée-là de côtoyer, cette fois, l'écriture et puis la poésie, précisément, qu'elle pratiquait, elle, qu'elle écrivait, qu'elle lisait déjà beaucoup, mais qu'elle voulait peut-être, cette fois, vraiment dire. Ça l'intéressait énormément.
Et vous parlez longuement, à propos de cris et de silence, de l'EHPAD, des hôpitaux où elle est, de ces mouroirs, entre guillemets, où elle se trouve, et où là-dedans, elle est extrêmement vivante. Elle n'est pas du tout à l'unisson du désespoir latent qu'il y a là-dedans. Lors de son hospitalisation, vous écrivez à Charles Foy, il y a un an et demi, une femme dans une chambre voisine passait tout son temps à hurler. Je me souviens qu'elle m'avait fait horreur, je n'éprouvais que mépris pour elle à cause de cette peur justement dont ses cris témoignaient. Et puis un jour, j'avais accompagné Ashkazette jusqu'à la chambre de cette femme pour qu'elle lui parle. Elle s'était adressée à elle doucement, non pas pour lui faire le reproche de ses cris, ni pour l'en délivrer, mais pour lui faire entendre comme elle était calme, elle, au contraire. Plaisir de dissonner, d'être au contraire des cris, et que la vie peut être, est-ce ce mouvement qui nous conduit du cri jusqu'au silence. Mmh. Là, c'est magnifique comme position de sa part.
Oui, il y a quelque chose, c'est... Hermine, elle aimait vraiment la parole, enfin, c'est quelque chose qui l'a liée à la vie, aux autres, enfin, c'était comme ça qu'elle était en relation avec les autres, enfin, pour ce que j'en ai vu, mais... Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que petit à petit, elle a accédé à cette dimension-là du silence parce que les mots lui manquaient, mais je dirais pas seulement, enfin parce qu'il lui en manquait pas tant que ça. On voyait que de temps en temps, certains mots surgissaient. Elle aurait pu bavarder comme on voyait à l'EHPAD. Enfin, il y avait vraiment des patientes bavardes. Et puis elle faisait pas partie de ce clan-là. Il y avait la langue arménienne qui lui revenait beaucoup.
Oui, c'est ça, parce qu'elle
parle. Chantait en arménien, oui. Parce que sa mère lui chantait en arménien beaucoup dans l'enfance. Mais les mots de français, enfin, je veux dire, elle pouvait faire des phrases encore, tout à fait, mais elle en faisait moins. Elle en faisait moins parce que, oui, parce qu'elle allait voir du côté de ce silence. Moi, je la voyais vraiment, enfin, c'était presque, je dirais pas que c'était actif, absolument actif, mais quand même, elle y allait, quand même.
On y va.
On y va, oui.
On y va. Il y a tout un paragraphe là-dessus sur, que vous écrivez à ce sujet. Je le retrouve, je ne sais pas où est-ce qu'il est.
Je peux le lire si...
Oui, volontiers, oui. Ce serait bien. Je trouve.
Faut que je le retrouve aussi, mais... Alors...
Je l'avais corné.
Ah voilà, je l'ai.
Voilà.
Bon, c'est peu de temps avant sa mort. On y va. On y va doucement, mais on y va droit. On va droit dans la douceur, on va doucement vers la fin. On voit la fin au bout de chaque mouvement. Et même si on y va de biais, on y va bel et bien. On y va. On se voit y aller. C'est difficile à dire. C'est triste et grave et trop léger pour être vrai. C'est pourtant vrai. On y va bien. Alors allons-y. Allons-y vraiment. Tête la première vers la fin. Plongée dans la douceur totale. Inéluctable et doux. Le grand bain. Le dernier. Toutes ces choses qu'on fait pour la dernière fois. C'est une catastrophe et ça ne se voit pas. Mais on le sait. On y va. Vas-y, je t'accompagne. Vas-y, tu y vas. Je le sais, je ne te retiens pas. Tu ne te retiens plus. Tu vas. Où ça finit. Où tu n'existes plus. Je vois ça. J'assiste à ta fin.
Je t'assiste pour que ça finisse bien. Je verrai, je veillerai. J'aime voir comment tu te sépares de ce qui est.
Le 30 avril 2021, ce matin, HKZ est morte. Avec HKZ et Antoine Mouton pour son ouvrage du même nom, HKZ, le livre bleu, publié aux éditions Epsilon. Et voilà, c'est la dernière petite plage de notre émission sur cette femme que vous avez rencontrée avec Rilke, en quelque sorte, et dont vous avez accompagner la vie un moment. Et je voudrais savoir comment est venu, si on peut appeler ainsi, ce geste d'écrire pour elle, sur elle, ou contre la mort, ou je ne sais.
C'est vraiment à partir du moment où il y a eu le premier signe de cette mort qui semblait inévitable, comme enclenchée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que de ce moment que je pouvais appeler vraiment mourir. Je me suis dit, ben oui, très bien, enfin, je l'accompagne, mais en fait, il fallait quelque chose pour moi comme une contrepartie, enfin, comme ce que j'ai toujours fait, en fait, dans ma vie, dès qu'il y avait quelque chose d'un petit peu intense émotionnellement qui arrivait, enfin, c'est-à-dire j'écrivais, et je me suis dit, oui, je vais écrire. D'abord, j'écrivais simplement mon carnet, parce que, enfin, il fallait que je prenne en note ce qui se passait, parce que je comprenais pas bien, je réalisais pas encore, enfin, il fallait que je prenne, que je tente de mettre quelques petits repères temporels dans ma vie pour avoir des, enfin, pour pouvoir en parler aussi avec les amis. Et puis petit à petit, c'est devenu mon carnet, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce que je fais tout le temps, je tiens un carnet, je ne parle pas tout le temps de gens qui meurent dedans, mais là, c'était ce qui se passait, c'était un carnet tout entier occupé par cette question. Enfin, c'était une manière de l'accompagner aussi en son absence, c'est-à-dire qu'il y avait plein de moments où je ne pouvais pas la voir par le Covid, par l'épuisement aussi, enfin, c'était trop lourd ou quelque chose comme ça, ben, par l'écriture, je tentais de la retrouver. Et c'est pour ça que le texte, il est plein de formes très différentes. C'est-à-dire que c'est, vous l'avez dit au début, c'est pas tout à fait, c'est un journal, il y a des dates, mais c'est plutôt un carnet qu'un journal, dans le sens où il y a toutes ces formes d'écriture différentes qu'on met dans un carnet, c'est-à-dire de temps en temps un poème, de temps en temps le récit assez simple de ce qui s'est passé, de temps en temps un souvenir, de temps en temps un petit traité. Et puis de temps en temps une photo, un texte que je retrouve dans son ordinateur, et tout ça mélangé forme un ensemble qui a été un livre, et puis qu'on a voulu bleu, mais comme bleu comme de ce bleu, l'idée c'était pas le bleu tant le bleu clin que le bleu de la robe de la Vierge dans quelques peintures italiennes classiques. Et c'est pour ça, moi je voulais des lettres dorées. Elles sont plutôt cuivrées parce que le doré c'était très compliqué à faire, parce que je voulais que ce soit comme les étoiles sur la robe bleue de la Vierge et qu'on ait presque ce processus de transmutation alchimique. C'est-à-dire, je me suis dit vraiment que j'allais tenter de transformer mon ami en livre. Je me suis dit oui, je vais faire ça. Alors oui, je vais la perdre, mais tant pis, il y aura un livre à la place.
C'est bien une idée d'écrivain, ça.
Oui.
Mais c'est joli. Et oui, d'ailleurs. Je garde en moi cette aube où je n'ai pas pleuré dans le long jardin triste des morts. C'est cette aube-là, ce livre, peut-être.
C'est peut-être une aube, c'est peut-être ce bleu-là. Peut-être que c'est cette aube-là que je garde, oui. Oui.
Mais alors, c'est à la fois un livre qui n'est pas analytique, mais qui est assez... pas froid, qui est froid sur la réalité des choses, c'est-à-dire vous accompagnez, vous êtes là, et à la fois c'est un livre de grande émotion, sans que vous êtes vous-même ému, non pas par vous-même, mais par la situation, par HKZ, par...
Oui, il y a tout ce que j'éprouve à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la réalité et l'émotion, enfin, à la fois le présent et le souvenir, à la fois la présence et les fantômes. Je pense que c'est ça aussi, c'est ça que l'écriture, si ce n'est permet, je ne sais pas si c'est ce qu'elle permet, mais c'est ce qu'elle ouvre, parce que comme elle échoue toujours un petit peu, comme dans le passage que j'ai lu, où je disais qu'il y avait vraiment quelque chose du présent, je pensais que je voulais toujours être au présent de ce qui se passait, puis toujours ça ratait, à chaque fois ça ratait, mais en fait ça ratait le présent, mais ça trouvait quelque chose d'autre. Donc c'était ça, pour moi, la question d'écrire, c'était, mais oui, qu'est-ce que je vais retrouver dans cet interstice-là du présent, dans ce ratage du présent?
Et à la fois, c'est aussi, enfin, c'est comme ça que je l'aperçois, un amour sans corps ou un corps sans amour. Je ne sais pas, il y a quelque chose où il y a autant d'intensité que dans une étreinte physique, et à la fois, le corps est progressivement évanescent. Voilà.
Oui. Il nous reste les mains qu'on se serre, et c'est à peu près la seule chose, mais c'est-à-dire que ça vient aussi avec un moment comme ça du monde, puisqu'il y avait cette histoire de Covid qui a vraiment œuvré à séparer les corps. Enfin, c'est-à-dire que il y a eu un escamotage, quoi. Enfin, vraiment. Et pourtant, ça, c'est une histoire qui commence par le corps. Enfin, c'est parce que moi, quand je commence à écrire, c'est parce qu'il y a un signe physique, un signe de dégradation physique, et que j'ai besoin de le noter pour être certain qu'il ait bien eu lieu, pour pouvoir m'en souvenir si jamais ça se reproduit, pour pouvoir savoir à quelle fréquence ça se reproduit. Et en fait, c'est pour ça aussi que je parle de transmutation alchimique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette histoire, c'est-à-dire que ça commence par le corps et ça finit peut-être par... l'âme, disons, ce mot-là, ou en tout cas par quelque chose de plus... Oui, ou par petit à petit, mais c'est aussi les structures sociales qui permettent ça, c'est-à-dire les pads, enfin voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on a pu retrouver d'elle, notre amitié pour elle ou la relation qu'on avait à elle sans tout ce dont il fallait s'occuper physiquement pour que la suite de sa vie soit tenable.
Donc, c'est-à-dire que oui, il y a une énigme là-dedans, mais une énigme que spirituellement, par l'écriture, vous essayez de chiffrer ou de déchiffrer, mais pas que de déchiffrer, de présenter, de nous présenter. Et nous la présentant, vous nous y faites participer, bien évidemment, puisque cette énigme de la mort venant ou de la vie luttant avec la mort, c'est la nôtre à tous. C'est pas...
Oui.
Voilà, on n'est pas, c'est pas l'affaire de l'autre.
Non, non.
Je crois qu'elle dit, Hermine, à un moment, on n'avait rien, mais on avait tout.
Oui, ça, elle parle de ça pour... elle parlait tout le temps comme ça du quartier de la rue de la Défense, à Issy-les-Moulineaux, c'est-à-dire l'endroit de l'immigration arménienne. Et puis, c'était amusant parce que à son enterrement, à ses obsèques, il y avait pas mal de gens de la rue de la Défense qui l'avaient connue quand elle était petite. Mm-hmm. Et puis, ils avaient cette même phrase. Quand il parlait, c'est on n'avait rien, mais on avait tout. Et donc, c'est presque comme si ce passé était presque une phrase, en fait. Lui-même s'était changé en une phrase. Cette rue de la Défense était devenue une phrase.
On n'avait rien, mais on avait tout. C'est l'inverse de notre vie contemporaine actuelle. Enfin, en tout cas,
oui.
assez l'inverse. Assez l'inverse. Mais elle n'avait pas vraiment rien, parce qu'elle avait justement son âme à elle, en quelque sorte,
oui.
Ce faisant.
Oui, et puis un désir très fort, une vitalité très forte. Oui.
Et ça, ça ne l'a pas lâché jusqu'au bout.
Totalement.
Et donc, vous n'étiez pas là quand elle est morte?
Non, non, non. J'étais à Dieu le Fille, à ce moment-là.
Et des gens qui sont à Pétahouchnok.
Oui, voilà, d'autres à Dieu le Fille. Mais oui, mais ça s'est passé quand... c'était étonnant parce qu'elle s'est retrouvée dans un EHPAD qu'on avait choisi... de la ville de Paris, enfin, rue Poliveau, près du Jardin des Plantes.
Ouais.
Et puis, on avait retrouvé à ce moment-là Lupélieu, qui était donc sa grande amie de ses 20 ans, enfin, même avant, je crois, et qui vivait elle-même rue Poliveau. Donc, il y a eu un hasard comme ça qui les a réunis à la fin de la vie d'Hermine. Et j'étais quand même... Enfin, on pouvait être inquiet, c'est-à-dire que moi, je pouvais être inquiet parce que cette grande proximité, c'était aussi une source d'angoisse pour lui, et en fait, il a fallu qu'elle change d'EHPAD à un moment, parce que l'EHPAD de la rue Poliveau fermée, et en fait, elle arrive dans le nouvel EHPAD, l'EHPAD Annie Girardot, dans le 13e, et elle meurt le soir même, sans même avoir connu sa chambre, ni quoi que ce soit. Et ça a été une grande... Enfin, c'était une des premières choses que m'a dit Lu, enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment très chouette, quoi qu'elle soit allée mourir ailleurs. Mais tout était comme ça, c'est-à-dire que tous les événements autour de sa mort étaient heureux, en fait. Enfin, c'est-à-dire que tout était gracieux et arrivait gracieusement sans encombrer personne, étrangement.
C'était, semble-t-il, quelqu'un de complexe, mais de gracieux, de bout en bout.
Oui, voilà. Oui, absolument.
Alors, dans Out de Jacques Rivette, il y a un type qui demande à HKZ, puisqu'elle a joué dedans... Tu as des frères et sœurs? Et elle lui répond, ben pourquoi j'en aurais pas?
Oui,
c'est très
là,
joli, c'est très joli.
Et là, je la soupçonne d'avoir écrit elle-même la réplique. Bon, c'était souvent le cas avec Rivette, d'après ce qu'elle me disait. Mais ça, c'est justement, quand elle meurt, je commence à regarder un peu obsessionnellement ses films, les films dans lesquels elle a joué, pour voir ce que je retrouve d'elle, ou ce que je vois d'elle, ou pour pas la perdre tout à fait tout de suite. Et, et justement, quand je la vois... dire cette réplique, quand je l'entends dire cette réplique, je me dis, mais oui, mais ça, c'est... En fait, ça, c'est pas le scénario. C'est pas du tout un scénario, c'est pas du tout un personnage, c'est vraiment Hermine. Et là aussi, elle me revient, d'une certaine façon. Elle revient, en tout cas.
Et alors, vous écrivez, c'est très joli, alors, peut-être, un jour, y aura-t-il un appel, HKZ, qui dira, je suis encore là. Voilà.
Oui.
Merci beaucoup Antoine Mouton pour ce livre et d'être venu parler de HKZ, donc.
Merci de m'avoir invité.
Publié aux éditions Epsilon, qui est un beau livre sur Hermine HKZ, en l'occurrence que vous avez connu, mais surtout que vous avez accompagné. Voilà, merci.
Merci beaucoup.
C'était Chute libre. Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.